Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Cube.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette journée d'éclipse solaire. On est tous très fébriles, les Montréalais le sont, il fait beau. Les conditions parfaites pour voir cette éclipse solaire. On va rejoindre tout de suite Stéphanie Villeneuve qui est au parc Jean-Drapeau. Bonjour Stéphanie!
Salut Yasmine! On vit quelque chose d'extraordinaire, je te le dis là.
Ça ressemble à quoi l'ambiance au parc Jean-Drapeau? Là, je vois derrière toi, il y a bien du monde.
C'est vraiment là, bondé. Là, je ne sais pas si vous venez de l'entendre, mais DJ Champion est derrière les plateformes. Quand même beau ce qu'on a fait. Là, on dirait qu'il est en direct de la Lune. Donc, on a fait quand même un très, très beau setup là, pour souligner cet événement-là. Mais oui, c'est bondé. Les gens sont positifs. Puis, tu sais, on bloc depuis l'hiver. On s'en gagne comme ça. Il y a une ambiance de festival. Les gens sont heureux. Ils sont arrivés très, très tôt ce matin. Beaucoup de familles ensemble avec leur lunch. Donc, c'est une journée hyper spéciale. Le soleil est au rendez-vous. On a mis de la crème solaire. On a les lunettes de soleil. C'est hyper festif en ce moment. Donc, on a des DJ champions qui fait la musique depuis, je vous dirais, une trentaine de minutes. Il reste une dizaine de minutes avant que l'animation commence. On le sait, c'est Sophie Fouron qui est à l'animation. Et ensuite, bon, ce personne pour venir prendre la parole. Je pense au ministre François-Philippe Champagne. Ensuite, on aura l'astronaute David Saint-Jacques, Laurie Rousseau-Neptune aussi, qui est astronome, qui vont venir nous donner des petits faits sur l'éclipse enseignée. Mais quand on parle d'informations, il y en a aussi Yasmine. Il y a plein de petites tentes qui ont été organisées par le planétarium. Donc, on nous partage tout plein d'informations sur l'éclipse. C'est ce qu'on va vivre surtout cet après-midi. Mais oui, t'en parlais d'entrée de jeu. Le soleil qui est au rendez-vous comme ça, le ciel presque complètement dégagé. Il y a une petite bande de nuages, mais pour vrai, ça ne devrait pas empêcher notre vision de l'éclipse un petit peu plus tard aujourd'hui.
Ben profitez-en, Stéphanie et toute l'équipe. Un moment qui arrive une fois dans une vie et les Montréalais sont rassemblés pour le vivre tous ensemble. N'oublie pas de mettre tes lunettes puis de rester très prudente. On a besoin de toi. Et on va se retrouver très bientôt pour avoir d'autres nouvelles de ce qui se passe au parc Jean-Drapeau. Merci beaucoup, Stéphanie.
À tout à l'heure.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Une nouvelle journée, une nouvelle annonce du gouvernement Trudeau qui est en train de nous dévoiler page par page le budget qui sera présenté le 16 avril prochain. Et c'est aujourd'hui, c'est la défense qui est à l'honneur, Luc.
Oui. Alors, c'est comme une campagne électorale. Alors, pour avoir de belles images, on se rend sur une base militaire à Trenton, qui est la grande base de transport des Forces armées canadiennes. Et puis là, on annonce en grande pompe qu'on va faire monter les dépenses. Elles sont... Tu sais qu'on a, comme membre de l'OTAN, une obligation. Nous nous sommes engagés à nouveau, il y a 3 ans, lors d'un sommet de l'OTAN, à faire en sorte que 2% de notre PIB soit consacré à la défense. On est pas mal loin de ça. Là. Et même après tout ce qu'on vient d'annoncer, Il a dit, M. Trudeau, on continue de travailler pour atteindre ce 2%. Et on va continuer de le faire avec d'autres dépenses, a dit le premier ministre. C'était des investissements non budgétés dans le plan. Est-ce qu'il est question de grands achats, de grands programmes d'immobilisation? Dans le cas des achats, paraît-il qu'on veut à nouveau se lancer dans l'opération de sous-marins?
Ah!
Et la dernière fois, ça a été tellement catastrophique. J'espère que tu te souviens, ils avaient acheté des sous-marins usagés. Ils coulaient.
Sur Marketplace. Ils ont acheté ça sur Kijiji.
Écoute.
C'est gênant.
Oui, c'est gênant parce que, à travers tout ça, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Il y a à peu près 10 000 postes libres à la Défense. 10 000 postes libres. Ils sont plus capables de trouver de gens. Peut-être que c'est parce que ça paye pas assez, mais c'est pas ça. C'est dans le fond, là, c'est quelqu'un qui veut faire une carrière militaire là, parce que ça l'intéresse ou peu importe. Il se retrouve dans un environnement où il n'y a pas d'outils pour travailler. Par exemple, quand est arrivé le moment de donner des armes à l'Ukraine pour se défendre, nous, on a envoyé des... comment ils appellent ça, d'ailleurs? Des missiles Carl Gustav, de l'équipement qui remonte au début des années 70. Là. Tu sais, on leur en a donné.
On a vidé nos musées?
On a vidé nos vieux entrepôts. Et puis, on leur a donné, je pense, en tout, 10 chars d'assaut Léopard, pas ceux de la dernière génération, ceux de la génération antérieure. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'on n'a pas donné 11 ou 12 parce qu'on n'en avait plus. On n'en avait plus. Nos régiments de blindés.
On leur a tout donné ce qu'on avait, là.
Ouais, parce que nos régiments de blindés, aujourd'hui, ils ne travaillent plus avec des blindés, ils travaillent avec des véhicules moins lourds, pas de chenilles. Alors, ils sont en train de. Les gens, les militaires de carrière qui sont là, disent.
Mais c'est
là,
qui voudrait aller travailler aux Forces armées canadiennes? C'est un peu comme un informaticien que tu engages puis tu lui donnes un papier puis un crayon, là.
C'est pas pire, ça.
Regarde, viens donc travailler chez nous. Tu vas voir du fun. Tu as un petit bic puis un crayon à mine.
C'est ça, puis prends des notes. Prends des notes. Regarde les autres. Quand on se déploie à l'étranger, bon, il y a eu le cas de l'Afghanistan qui était un véritable déploiement. Mais à part l'Afghanistan, c'est des petits déploiements. Fait qu'on envoie nos soldats, puis on dit, regarde les autres. Là. Si t'es fin, peut-être qu'un jour, le gouvernement va nous donner les sous pour que tu puisses faire ton métier. Maintenant, certains diront, mais pourquoi l'armée? On n'est pas un pays qui veut faire la guerre. Non, mais on fait partie de l'OTAN. Et nous sommes sous le parapluie sécuritaire de la force nucléaire américaine et des forces armées américaines en général. Alors, lui, là... Allez-vous-en là où on vous envoie, puis regardez les autres, là, parce que les autres, ils sont équipés, puis ils savent ce qu'ils font. Et j'exagère un peu, parce que j'ai beaucoup d'amis militaires.
Ton père travaille aujourd'hui, là. Gars, si t'aimes ça, si tu veux suivre ses traces.
Ils vont dire, regarde l'équipement qui s'en vient. Oups, il y a une éclipse. Je sais pas ce qui est arrivé. L'équipement devait arriver, puis éclipse.
Puis là.
Mais c'est pas une affaire lente, là, tu comme celle-là, non. Parce qu'on commence à la voir sur les écrans de télé, là. C'est pas ça, là. C'est, eux autres, là, c'est comme zoom. Ça passe, puis il reste plus rien. Alors, vous aimiez ça, vous entraînez avec des chars Léopard, zip, parti, il y en a plus.
Ils leur donnent pas le temps de finalement s'ennuyer de ça.
Ah non, ils peuvent pas, eux autres. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Peut-être qu'aujourd'hui, les militaires sont installés avec des lunettes comme nous autres, puis essaient de regarder l'éclipse pour voir s'il y aurait pas
de... bon Dieu d'avoir des nouveaux jouets.
Alors, malgré tout, l'ambassade des États-Unis à Ottawa a dit qu'ils étaient très satisfaits de ce que venait d'annoncer le gouvernement. On parle ici de, c'est quoi, 8,1 milliards de dollars sur 5 ans. C'est beaucoup, mais pas tant que ça.
Là, tu sais, pas sur tant 5 pour une ans, dépense d'un ben pays là, qui a la Russie en Arctique.
Oui, c'est ça. Puis ils veulent mettre davantage d'argent dans l'Arctique, mais on parle de sommes de genre 45 millions de plus.
C'est rien, ça?
Ben absolument rien. Pendant ce temps-là, les Russes sont en train d'avancer leur base de telle sorte qu'ils arrivent sur la ligne qui délimite la frontière. Et on voit très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent la traverser, la frontière. Puis nous, tout ce qu'on a là-bas, c'est des forces de Rangers. Les Rangers, ce sont des soldats réservistes qui viennent de ces régions du Nord. Ce sont des Inuits la plupart du temps. Et ils sont bons. Ils sont connus pour être très bons, mais ils sont bons dans la limite de ce qu'on leur donne.
Ben oui.
Ils ont une carabine. Bon, alors, l'autre côté, il y a un char d'assaut, comprends-tu?
Alors, mais on est Canadiens!
On est Canadiens. Nous autres, on est contre la guerre.
On n'aime pas ça, la chicane.
On n'aime pas la chicane.
Baisse le ton, Vladimir.
Nous autres, on n'aime pas la chicane.
On n'aime pas la... On prend une grande respiration. Oui. Tous ensemble.
On dirait qu'on entend François Legault au début de son premier mandat. quand il s'adressait à... Tu sais, il venait d'assermenter son cabinet, là. Puis là, ils étaient tous assis devant lui, puis là, il leur a dit, il y a deux choses qu'il faut, auxquelles il faut faire attention. Un, c'était quoi déjà?
Je m'en rappelle plus, c'est toi qui raconte l'histoire.
Bon,
Restez humble.
Je vais rester. Il leur a dit de faire attention à l'arrogance. Ah! Ça a bien marché, hein? Puis il leur a surtout dit, moi, j'aime pas la chicane. Ah bon? On te regarde aller, puis c'est pas évident, mon François.
Mais en janvier, il leur a dit, cohésion.
Fou sauce graine.
Cohésion et discipline.
voilà la discipline.
Ça a pris le bord.
C'est ça, plus de distraction, c'est fini. Nous autres, on est plus là-dedans. Et c'est pour ça que je me promène avec des bananes puis des pommes, puis ça dépend des jours. Quand il reçoit une question portant sur un sujet sérieux, il dit les Canadiens ont gagné, puis il a pas regardé, mais il avait perdu. Mais enfin, c'est d'autres choses.
S'ils avaient perdu, ils avaient même pas gagné. Mais non, ils avaient gagné contre l'Avalanche.
Ils avaient
gagné contre l'Avalanche.
Tu regardes les matchs, hein, t'es gêné de l'admettre.
Mais c'est juste pour être à ton niveau le lendemain, tu sais, genre, faire partie de la conversation.
Hey, j'espère que ça achève mon intervention parce que mes lunettes m'attendent.
Tes lunettes t'attendent et l'éclipse commence.
Ben,
là.
Ça commence
tout de suite.
Là.
Luc, fais attention à tes yeux.
Tu peux être sûr.
J'espère. On se retrouve demain. Bye.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Le Canada qui a investi 8,1 milliards de dollars dans la défense sur 5 ans, c'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau aujourd'hui là, dans la série de dévoilement des mesures budgétaires. On attend le 16 avril avec impatience pour savoir qu'est-ce qui va en rester. Mais Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous. 8,1 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est pas grand-chose.
Ben, c'est littéralement rien, en fait. Quand on parle de dépenses militaires, c'est juste rien. Hey, sur 5 ans, 8,1 milliards, militairement parlant, des peanuts, là. C'est absolument rien. Puis on s'entend-tu là, que je ne suis pas quelqu'un de pro-guerre? Là?
Non.
On se comprend-tu qu'il y a peu de monde, à part ceux qui profitent économiquement de la guerre elle-même, qui sont vraiment pro-guerre et encore? Mais crime, je le sais que c'est pas populaire. Là. Je le sais que Justin est dans sa valse des dépenses prébudgétaires, puis que là, c'est comme une pré-campagne électorale, disons-nous-le comme ça. Là, la campagne est lancée, juste pas officiellement. Justin lance des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Là. Il est comme ça, là, wouh, tu sais. Il y a là des gars avec les canons à t-shirt là, dans le Centre Bell qui en lancent en haut. C'est un milliard, 5 milliards, pouf, 10 milliards.
C'est Oprah, là.
Exact. Vous prenez des milliards, vous avez des milliards, tout le monde a des milliards. OK. 8,1 milliards de dollars pour la défense canadienne sur 5 ans. Écoute, j'ai pas plus le goût que personne d'envoyer de l'argent pour se créer des équipements militaires, pour renouveler de l'équipement militaire qui, on espère et on prie, ne nous servira jamais à rien. Tu sais, c'est un peu ça, là, le paradoxe de la défense.
Mais c'est dissuasif.
Mais c'est dissuasif, puis ça nous permet surtout d'honorer des promesses, plus que le matériel militaire lui-même. On est censé payer 2% de notre PIB. En dépenses militaires.
On est à quoi,
1,38? Là, on veut monter jusqu'à 1,76%. Mais on n'est pas capable d'atteindre 2%. En fait, on pourrait, mais on ne veut pas le faire. Puis jusqu'en 2030, là, on nous annonce du côté de M. Trudeau qu'on n'a aucune espèce de maudite intention d'atteindre un 2%. Un 2% qui est atteint par toutes sortes d'alliés au sein de l'OTAN, mais pas nous. On est quoi? On est littéralement le gars qui crash dans ton sous-sol, là, qui mange ta bouffe, qui vit sur ton divan. Puis quand tu lui demandes, « Hey, tu m'as promis que tu allais payer le loyer, ça fait comme 15 ans. Est-ce que tu prévois me le payer bientôt? »
L'année prochaine.
Ah oh ouais, ben d'ici 2030, attends, je vais prendre les propos de Justin Trudeau lui-même, ben on continue de travailler, surprise, pour atteindre ce 2%. Je continue à travailler fort pour te payer le loyer. Là, je te le jure que, regarde là, je te paye un pourcentage de ce que je te dois, mais dans une couple d'années.
Mais Alex, qui vote pour un gouvernement qui investit dans la défense?
Honnêtement, je sais pas. Je pense que tout le monde devrait voter pour un gouvernement qui investit juste assez
dans
la défense.
Pas un chat qui va voter pour des milliards mis dans la défense quand le monde est pris à la gorge. Là.
Mais les milliards sont dilapidés de toute manière. Justin Trudeau envoie des milliards à grands coups partout. Qu'est-ce que ça aurait été, honnêtement, là, d'en prendre une coupe là-dedans, de les ajouter, puis de dire, regardez, on remplit notre 2%, on fait notre job dans un monde de plus en plus dangereux dans lequel des démocraties sont menacées d'envahissement. Là. C'est le cas en Ukraine. Ça va être le cas bientôt. Là. Je vais pas être prophète de malheur à Taïwan. Ça va être la même affaire. La Chine va essayer d'avaler cette petite île-là qui est un pays démocratique, je le rappelle, qui va se faire avaler par une dictature beaucoup plus grosse. À côté, les alliés du monde entier vont être appelés à réagir à cette situation-là. Puis le Canada, on va faire comme... Ah!
On va participer avec en envoyant des communiqués de presse et des tweets. Là.
Ouais, on va vous envoyer des bottes d'hiver. Puis là, on n'a plus de bottes pour nos soldats, mais on va envoyer des bottes. Puis là, ils vont demander, non, on veut des munitions. Puis on va dire, c'est parce qu'on pourrait toffer à peu près comme 3 jours de guerre, le Canada, si demain matin, on entre en conflit armé à coups de munitions qu'on a. C'est même pas une blague, Yasmine. Demain matin, on se fait envahir, on toffe 3 jours, il n'y a plus de balles dans les fusils. C'est les estimations de la défense militaire elle-même. Là, au rythme où les munitions sont dépensées en Ukraine, si on avait à peu près sensiblement ce même conflit-là, je rappelle, on est dans les plus longues frontières, ou la plus longue frontière terrestre du monde, ici. Demain matin, on se retrouve dans un conflit. On est coincé. Il n'y a rien qu'on peut faire. Puis je comprends, Yasmine, qu'un point de vue politique, c'est pas populaire.
Mais non.
Mais de mettre une couple de milliards de plus, parmi tous ceux que tu dépenses de toute manière, tu vas avoir le déficit le plus record qu'il n'y a pas, je le prévois, je le vois venir d'avance. Hey, respecte donc ta promesse. Aie donc l'air, au moins, sur la scène internationale, de te tenir côte à côte avec tes alliés.
Mais là, fais semblant d'être le régal.
Mais fais semblant. Là, on est où? On est à la table des enfants, Yasmine. C'est le souper de Noël, puis nous autres, on est à la petite table à côté.
Puis on a des croquettes de poulet.
Exact. On a notre animalerie Saint-Hubert, puis pendant que tout le monde est en train de discuter des vraies affaires, puis on est à table pour enfants en train de faire oh, « Regardez comme c'est beau, nous dépensons des milliards pour toutes sortes de programmes. Nous allons continuer à travailler pour un jour peut-être respecter nos promesses. » Je trouve ça tellement, mais tellement désolant dans un monde de plus en plus, la situation géopolitique est de plus en plus grave un peu partout, on veut se montrer comme un leader dans cette époque-là. Puis c'est ce qu'on dit, mais c'est jamais ce qu'on fait. Là. Puis...
Mais récapitulons 3 secondes. Parce que là, on n'a pas de sous-marins. Parce qu'on les a achetés visiblement sur Kijiji puis qu'ils ont coulé. On n'a pas d'avion de chasse parce qu'on les a mis sur pause l'achat puis on vient de repartir ça. Les F-35.
Oui.
On n'a pas de munitions. Nos 10 blindés, on les a envoyés en Ukraine. On n'en a pas un de plus. Il nous manque pas loin de 10 000 hommes, ou femmes, évidemment, au sein des forces armées canadiennes. Qu'est-ce qui reste?
Vraiment pas grand-chose.
Des parachutes?
Les estimations là, de nos propres forces armées, c'est qu'on a à peu près 61%. Là. 61%, c'est comme un tout petit peu plus que la moitié de nos forces armées qui demain matin pourraient être mobilisées puis prêtes à se battre. Le reste, les équipements sont défectueux, les bateaux fonctionnent pas, les avions fonctionnent pas. Puis après ça, on se targue d'être un pays du G7 puis d'être fort puis d'être capable d'avoir une présence et de défendre les alliés. C'est que maintenant, les belles paroles puis les beaux principes, ça tient pas. Ça va finir par plus tenir. Puis nos alliés sont déjà en train de rire de nous. Puis ça, c'est la situation qui est la plus grave au travers de tout ça. Là, j'ai pas réellement peur que d'ici la fin de l'année, d'ici 3 ans, on entre dans un conflit armé intensif. Là. Je veux dire, c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. Mais quelque part, pire, bien pire que ça à court terme, mais c'est de quoi on a l'air à côté des gens qui, eux, sont supposés, là, on compte sur eux pour nous protéger. Là. On se cache dans les jupons des États-Unis, on le fait constamment, mais qu'est-ce qui arrive demain matin quand t'as un Donald Trump qui peut se faire élire et qui a promis de plus aider les gens qui payent pas leur juste part dans le temps?
Il n'y a pas tort, Donald Trump.
Là-dessus, non.
On peut-tu se le dire? Là où il a absolument chiré là, puis il est parti sur une dérape, c'est lorsqu'il a dit qu'il allait encourager les ennemis des membres de l'OTAN à envahir.
On se comprend
que là, tu sais, comme ça a juste aucune allure. Mais de dire, ben voyons donc, il y a du monde qui profite de la protection militaire offerte par ceux qui investissent massivement dans l'OTAN sans jamais investir eux-mêmes et participer à l'effort de guerre, entre guillemets, c'est pas tout à fait fou, là.
On est le pic-assiette. Il y a des généraux américains qui nous ont traités de freeloader of NATO. Les pics-assiettes de l'OTAN. On est littéralement la vermine de cette alliance-là. C'est tellement insultant, puis c'est tellement triste. Puis Justin Trudeau là, fait sa belle grande valse d'annonce. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, OK, c'est quoi? Jour d'éclipse médiatique à cause d'une véritable éclipse? Wow, fantastique. Quelle belle journée pour présenter un plan de restructuration de la défense d'une ironie complète. Hey, ça s'appelle « Notre Nord, fort et libre ». Et dedans, puis je te lis des passages, okay? Parce que moi, ça, encore une fois, là, c'est tellement du Justin Trudeau, là, c'est du trudeauisme à tout casser, parce que je pense que c'est un terme qui va rester dans les annales maintenant. Attention. « Nous étudierons les possibilités de renouvellement de notre flotte de sous-marins. » Pas, oui. On va le renouveler, on va étudier la peut-être possibilité. Attention, nous étudierons les possibilités de modernisation, de remplacement de nos chars et de nos véhicules blindés. Aucun engagement. Attention, on pense le processus d'acquisition là, qui a fait tellement de troubles dans les dernières années. C'est tellement compliqué d'aller commander du stock militaire. Nous repenserons la manière dont nous acquérons les équipements. Comment? Pourquoi? De quelle manière? C'est jamais dit après ce projet d'acquisition. Nous raccourcirons le calendrier des grands projets d'acquisition. Comment? Ils disent pas non plus, mais c'est une blague.
Mais parce qu'il y a une éclipse!
Mais je comprends Justin de l'annoncer l'éclipse, parce que c'est carrément gênant. Puis après ça, ben, on peut plus. C'est plate, là, mais le Canada ne peut plus prendre aucune position sérieuse sur n'importe quel enjeu de stratégie ou de défense qui concerne les alliés de l'OTAN. Je m'excuse, là. Moi, c'est comme le monde qui se met à chialer contre le gouvernement en disant « Ah, c'est-tu de la merde, ça, le premier ministre, on l'haït! » Puis ces gens-là, ils ont pas voté, mettons.
C'est à peu près la même chose.
Si t'as pas voté, tu ne peux pas critiquer. Si tu payes pas ta part dans le temps, tu peux plus. T'as plus la crédibilité de quoi que ce soit. Puis c'est pas comme si, là, c'est nouveau. Puis là, c'est fait des années qu'on n'est pas capable de l'atteindre. Puis là, ils décident de pas le faire.
Mais là, encore. J'ai une question existentielle.
Vas-y.
Toute cette guerre Ukraine-Russie, là, c'est parce que la Russie est pas contente du rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN. Puis il veut pas que l'Ukraine embarque dans l'OTAN, cette organisation, cette alliance stratégique de plusieurs pays. Une alliance militaire. Est-ce qu'on s'attendrait à ce que, l'Ukraine participe à 2 % de son PIB?
Ben là, je peux te dire qu'il participe probablement plus à 2 % de leur PIB rendu là. Ben oui, en fait, on s'attend à ça de tous les membres.
La Pologne, elle le fait.
La Pologne le fait, puis elle le fait pas à peu près. Mais pourquoi la Pologne, elle le fait? Parce qu'elle est aux portes de la Russie. Elle est juste à côté.
Ben,
eux, ils l'ont. Le feu, il s'en vient, puis il est devant leur face. Nous, on est l'autre bord. Puis on est. Puis regarde, je vais te citer. C'est une entrevue qui avait été donnée à CTV par le directeur général de l'Institution des associations de défense, un homme qui s'appelle Yuri Cormier, qui a dit, et puis je vais le citer parce que je trouve que ça résume tellement bien, mais tellement bien la situation là, de licorne puis de naïveté dans laquelle le Canada se situe à ce point-ci. Il dit « Les Canadiens ont toujours eu l'impression d'être un pays sans prédateurs et ont cru que nos trois océans et le fait d'avoir une superpuissance amicale au sud nous protégeraient. » Puis entendre Justin Trudeau présenter des plans boboches comme il présente aujourd'hui, ben c'est encore ça sur quoi on se base. Dire « Oui, nous faisons plus, nous investissons plus, c'est magnifique, haha! » Mais le plan veut rien dire, il n'y a aucune mesure concrète, l'argent n'est pas au rendez-vous. Ils ont demandé à l'automne passé à la Défense de couper $1 milliard, là, ils remettent de l'argent dedans comme si, soudainement, ils étaient consciencieux de ce qui se passait de ce côté-là. Je répète, je n'ai pas envie qu'on dilapide des milliards, alors qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui font face à l'inflation. J'ai pas envie qu'on dilapide des milliards sur le militaire, mais le monde, dans l'état où il est, requiert qu'on fasse ça. On a besoin. Hey, je veux dire, en latin, le civis pacem parabellum.
Ouais.
Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est plate, mais l'histoire humaine au grand complet a donné raison aux pays, aux États, puis aux dirigeants qui prennent des décisions éclairées concernant tout ça. On espère jamais avoir à s'en servir. Mais ciel, il y a des nations, il y a des États sur la planète qui n'entendent pas raison, qui sont dirigés par des fous furieux, qui sont dirigés par des gouvernements totalitaires qui vont s'en sacrer de nos beaux principes, qui vont s'en foutre éventuellement dans le monde de à quel point on peut avoir des beaux principes puis des beaux discours, puis oui, haha, nous allons peut-être potentiellement réfléchir à peut-être investir dans des sous-marins un jour. Ça, ça fera jamais peur à la Chine, à la Russie, puis aux autres États du genre. Puis je trouve que le problème, on l'a eu aussi la preuve, dans tout ce qui est militaire, les chaînes d'approvisionnement étant ce qu'elles sont, on est obligé de s'y prendre vraiment d'avance pour être capable de faire face au futur.
Ben, ça prend des années avant de recevoir du matériel militaire qui est commandé, là.
Des
c'est pas Uber Eats, là.
Non, des années. Puis le problème, c'est que là, on se prend encore en retard. On va être encore
parce
en retard.
Réfléchit.
Puis dans 10 ans, ben, on va penser, peut-être, éventuellement, maintenant, quand ça va nous tenter, de peut-être, dans l'éventualité, acquérir du matériel militaire.
On va l'acheter passé date.
on va être en retard. Honnêtement, il y a des chances réelles, c'est pas une blague, qu'on reçoive nos F-35 puis que les avions soient out of date. Là. T'sais, que ce soit des avions qui sont plus à la fine pointe de la technologie. C'est ridicule, mais c'est ça. Puis je comprends, je répète, je comprends tellement.
C'est vrai, les acheter
attendre
des bâtons Star Wars, là. Tu sais, ça a l'air d'être plus efficace.
Ah oui, pour vrai, on va leur acheter des guns en plastique à notre armée, puis ils vont le faire semblant, là, ils vont y swinguer d'un bord puis de l'autre.
Ben,
ils peuvent
aller à la ronde, là. Tu peux faire tomber des cibles avec une arme, là, en plastique.
Appelez-nous, on a tellement de suggestions.
Écoute, j'ai tellement d'idées. Puis il y a des jeunes de 14 ans qui, eux, ça arrive à avoir de l'approvisionnement à Montréal, tu sais, qui tirent sur le monde, là.
C'est vrai.
C'est ça. Eux, là, ils ont une bonne source d'approvisionnement, visiblement, que personne ne dérange. Alexandre Morinville-Ouellet, espérons que quelqu'un va se réveiller un jour, là, puis que ce pays-là a besoin d'être protégé.
Ben, pas aujourd'hui, c'est l'éclipse.
Non,
Justin a bien choisi son moment.
Merci beaucoup.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
Je suis allée jeter un coup d'œil sur le début de l'éclipse solaire. J'allais mettre mes lunettes avec mes collègues de Cube là, puis regarder ça à travers nos grandes baies vitrées. Et c'est franchement impressionnant là. Tu sais là, ce n'est que le début de cette éclipse. On est encore largement dans une éclipse partielle. Mais voir le gros soleil, puis là la lune qui vient gruger minute après minute du soleil là, c'est assez impressionnant. Alex, je te retrouve parce que toi aussi t'es sorti.
Hey, je suis fou, sincèrement, je suis fou, fou comme de la menthe, je vais le dire, je pense.
Écoute,
je suis fou comme de la menthe, c'est un phénomène exceptionnel.
Tout le monde dans la rue, là, sont comme debout, ils sont à l'arrêt, on dirait que tout le monde a arrêté de faire de quoi aujourd'hui.
Je reçois des témoignages, honnêtement, d'un peu partout, là, des gens qui se promènent dans le métro, qui, eux, trouvent ça pas mal moins drôle, là, parce que A, tu peux pas regarder ton éclipse partielle qui passe en ce moment, puis B, les gens sont partout, sont frénétiques, puis ça va dans tous les sens, puis c'est vraiment ce qu'on peut observer aujourd'hui. Honnêtement, c'est la belle fébrilité là, d'un événement qui, on ne verra pas de notre vivant, là, probablement, à moins d'aller la chasser, cette éclipse, hein, n'importe où sur le globe, où ça va se passer encore, ça va réarriver.
Il faut être motivé en tabarouette.
Il faut être motivé en tabarouette, mais sinon, c'est la seule fois, toi et moi, de notre vivant, on va voir ça.
La prochaine, c'est quand? Là?
Loin, on semble ici, au Québec, là, on s'est supposé quasiment aller à 2100, si je ne m'abuse, 2080,
okay, 2100. Fait que...
Dans un bout, oui.
Il reste un petit bout. Parce que moi, là... Je veux trouver la prochaine date. Ah, regarde. La prochaine date, là, il va falloir la trouver. Parce que tu sais quoi? Il faut le dire au ministère de l'Éducation.
Il faut qu'on soit capable de garder les enfants à l'école dans 100 ans.
Fait que j'aimerais ça qu'ils commencent à se préparer parce que ça leur prend 100 ans pour prévoir une éclipse. Tu sais, aujourd'hui, là, la moitié des écoles au Québec sont fermées.
Regarde, c'est fait. Moi, je trouve qu'on est rendu à ce moment-là. Là, ça fait comme quoi? Un mois, deux mois là, qu'on parle de l'éclipse, puis des écoles, puis que ça tue pas de bon sens. Puis j'ai tendance à être d'accord, mais là, sérieux, on est rendu là. Je pense que le moment est à l'émerveillement, Yasmine. Je vais y aller sans gêne.
T'es donc positif aujourd'hui?
Je l'étais pas il y a genre 10 minutes, mais là, je le suis. Regarde, j'ai vu cette énorme boule de feu qu'on appelle le soleil. Ça fait masquer lentement, mais sûrement. Je trouve, regarde, il y a des moments comme ça, là, puis on en a-tu besoin? On en a-tu besoin d'avoir des moments comme ça qui sont positifs, qui sont doux comme ceux-là, où on peut se regrouper autour d'une cause commune qui va plaire à tout le monde? Je pense qu'il y a personne aujourd'hui qui fait « Hey, jaillit les éclipses, c'est de la scrap! »
Mais non, là.
Regarde, on peut se féliciter pour
mais
tout ça.
Mais j'ai hâte à demain pour qu'on arrête de parler d'éclipses.
Absolument.
Alexandre Morinville-Ouellet, cher ami.
Salut.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
On a tous entendu parler des actes très agressifs qu'il y a dans le métro de Montréal, une multiplication d'incidents violents, notamment la fille de Richard Martineau, notre collègue, qui a été frappée par une itinérante dans le métro là il y a quelques jours. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est un phénomène qui nous saute dans les yeux qu'on n'a pas vu venir? On pose la question à Abdelhak Sari, conseiller de ville du district de Marie-Clarac et vice-président de la commission de la sécurité publique. Bonjour, M. Sari.
Bonjour.
Vous l'avez vu venir, cette montée des incidents violents qui frappent notre métro?
Oui, on l'avait vu venir au niveau de l'opposition officielle en 2022, puis on s'est levé au niveau du conseil municipal et on l'a exprimé. À ce moment-là, la réponse de l'administration n'était pas uniquement juste pas claire, mais également, ils nous ont un peu accusés de faire peur à la population. Alors, ce qu'on voulait, c'est vraiment des actions beaucoup plus concrètes pour contrer ce sentiment d'inquiétude qui régnait dans le métro, pour plusieurs raisons que je pourrais évoquer par la suite. Cependant, ce que nous, on a vu de l'administration, c'était totalement le contraire. ce qui est arrivé, c'est que de un, l'unité 50, qui est juste pas loin de vos studios ici, qui est responsable du métro et de l'unité canine, ben, elle était réduite. Alors, le nombre de policiers dans nos métros a été réduit suite à notre intervention.
Mais vous parlez des policiers de la STM.
Du SPVM qui circulent et qui patrouillent dans nos métros. Il y en a moins depuis qu'on a eu ce sentiment d'inquiétude des usagers, usagères. Deuxième chose, c'est que si on voit le budget de l'année dernière, s'il y a une baisse de 20% sur la sécurité dans nos métros. Ah, et c'est là où j'interviens une deuxième fois. Je dis, il y a des gens qui nous rapportent des faits sur plusieurs éléments. Le premier, c'est concernant, bien évidemment, cette question qu'il y a beaucoup d'itinérants, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, mais pas que. Il y a également de la criminalité qui est au sein de nos métros et que, malheureusement, ça ne rassure personne. Puis il y a plusieurs personnes qui délaissent le métro, qui délaissent le transport collectif. Et ça, c'est très malheureux dans une ville où on veut inciter tout le monde à prendre le métro, bien évidemment.
Quel est le rôle que doit jouer le SPVM versus la STM? Parce que dans les deux, il y a normalement des unités, des personnes qui sont dédiées à assurer la protection et la sécurité dans le métro. À qui vous jetez le blâme, la STM ou le SPVM?
Je ne voudrais pas jeter le blâme, mais ce que je jetterais le blâme, c'est surtout de la manière de gouverner, parce qu'on a beaucoup d'intervenants présentement, et même moi qui est membre de la commission de la sécurité publique depuis 2017, j'arrive plus à suivre. Il y a beaucoup d'escouades, beaucoup de noms qui sursautent à chaque fois qu'il y a une sortie médiatique de Madame Plante. On a un nouveau nom. On parle d'ambassadeur, on parle d'émis, on parle de CCR, on parle de. Il y a plein de noms qu'on a eu depuis 2022 et. Le problème, c'est que le résultat n'est pas là. Alors, ce que je peux vraiment dire, tout simplement, oui, on a des bien évidemment, des patrouilleurs du SPVM qui sont toujours là, mais ils vont avoir de la difficulté vu qu'on a réduit les patrouilleurs souterrains dans le métro. Ben là, maintenant, quand on a un appel, ben les gens vont venir des postes de quartier. Bien évidemment, on a demandé de voir est-ce que le temps de réponse a été affecté. On n'a pas encore eu la réponse suite à une demande d'accès à l'information. Maintenant, parlons des constables. Les constables de la STM, je ne peux pas jeter le blâme sur eux parce que, de un, ils ne sont pas équipés de la manière qu'il faut pour contrer la question de violence.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, premièrement, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas la même formation qu'un policier. Puis, deuxièmement, ils ne peuvent pas intervenir sur toutes tous les méfaits qu'on peut retrouver. Et c'est là où j'aimerais bien vraiment distinguer un élément. Les incidents qu'on a vus dernièrement, ils sont de deux types. Et de un, il y a de la criminalité pure et dure qu'on peut retrouver où il y a des problèmes de vente de drogue, il y a des criminels qui sont sur place. Et par contre, il y a également de la question de la santé mentale. Oui, un intervenant peut intervenir, mais à un certain moment, quand il y a de la violence, ça demande bien évidemment une intervention policière parce qu'on parle vraiment d'un élément de criminalité à ce moment.
Mais le métro de Montréal, prenons l'exemple du métro de Montréal, c'est devenu aussi un refuge pour bien des personnes, en période de froid, évidemment, le problème d'itinérance à Montréal, le sous-sol et le métro deviennent un refuge des intempéries. Le problème de vente de drogue un peu partout au centre-ville de Montréal, la toxicomanie, on les voit où? Aux abords des métros. Les personnes en situation de maladie mentale, là, des personnes qui ont des troubles de maladie mentale, se retrouvent complètement désorganisées dans le métro. Mais on le sait tout ça, il ne faut pas une étude pour le savoir. On n'a qu'à se promener entre le métro ici, Berry-UQAM, à Honoré-Beaugrand, là, sur la ligne verte. On en a de toutes les couleurs.
Mais Madame Abdel-Fattel, moi, je vais vous le dire tout de suite. Moi, j'ai étudié à l'UQAM depuis 2003, puis j'enseigne depuis 2007 à l'UQAM. Je connais très bien le coin. Ça s'est détérioré, par contre. Si on fait une analyse évolutive dans le temps, depuis la pandémie, même avant la pandémie, il y a une détérioration de la question de quiétude. Moi, en m'installant au Québec en 2002, j'ai choisi Montréal parce que pour une question de quiétude, d'abord. Et le choix de la d'une ville suite à une quiétude, on voit qu'au niveau de l'évolution de la sécurité, que ce soit dans le transport en commun, que ce soit dans nos rues, que ce soit dans les écoles, ça se détériore. Ça se détériore surtout les dernières années. Et là, je pense que l'intervention qu'il fallait faire, c'est de ne pas re-questionner le tout, ne pas refaire le tout, mais peut-être de voir qu'est-ce qui marche et le garder, ce qui n'a pas été fait par la fait par l'administration Plante, et bien évidemment voir où est-ce qu'on peut évoluer mieux. Maintenant, sur la question de, oui, il y a des itinérants qui sont là l'hiver, ben c'est une stratégie que l'administration Plante, je trouve vraiment qui est déplorable. Pourquoi? C'est comme elle attend que la neige fonde, ben elle attend que vraiment qu'il y ait moins de froid pour que les gens sortent du métro. Et ça, c'est pas vraiment la bonne stratégie à mettre en place. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de mettre en place les mécanismes. Il y a également des personnes à la STM qui peuvent aussi collaborer. On a des personnes à la porte que parfois ils vont juste diriger le monde. Ils peuvent descendre dans les quais et vraiment eux-mêmes, je dirais, voir ou exprimer ce qui se fait, puis le rapporter à leur supérieur ou le rapporter tout simplement au constable et au SPVM. Malheureusement, ça ne se fait pas. Alors, je pense que ça prend une intervention rapide de la part d'une administration qui veut inciter les gens à aller en transport collectif. Nous aussi, on le veut, mais il n'y a aucun alignement stratégique à cet égard. Je pense qu'au contraire, ce qu'elle fait l'administration, c'est qu'elle décourage les gens, plutôt, les encourage à délaisser le transport actif et le transport en commun.
Mais demain matin, on va dire qu'ensemble, Montréal est élu à la mairie de Montréal, que vous êtes majoritaire, que vous êtes membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique. Quelles sont les actions qu'Ensemble Montréal propose concrètement?
Premièrement, au niveau de la STM, on va commencer par la STM. Premièrement, là où il y a des ampoules où c'est vraiment brûlé, puis on a plein. Il y en a plein. Moi, je prends le métro le soir, puis on a plein. Ça, c'est de 1, ça doit être réglé. On parle quand même d'une question quand même de sécurité. Ça, c'est de 1. De 2, au niveau des escouades, il faut en arrêter. Si je veux mettre en place une escouade de sécurité publique, il faut que je garantisse la pérennité. Ce qu'on a eu avec le ECCR, c'est que le Québec, quand elle a décidé de tirer la plug, elle a tiré la plug. Je ne veux pas qu'une métropole qui a un budget de 7 milliards de dollars dépende vraiment d'un budget qui n'est pas récurrent de la part de Québec. Et je vais arrêter de gérer un élément aussi important comme la sécurité publique avec des sorties médiatiques. Et je suis sûr, je vous le dis tout de suite, je dirais aujourd'hui, que Mme Plante va sortir dans les prochains jours faire une autre, je dirais, une autre relation publique, une sortie de communication sans aucune stratégie. Je vous donne juste un autre élément. L'été arrive et ça fait des années que je leur demande, par exemple, des schémas de couverture, un plan, par exemple, estival, un plan vraiment pour l'été, parce qu'on voit qu'il y a une recrudescence de la violence armée. Il n'y a pas de plan. Et ça, c'est très important. Alors, pour moi, quand il y a des éléments où ma population est inquiète, c'est pas là où je vais commencer à réduire mon poste de quartier. C'est pas là où je vais vraiment créer des escouades en faisant vraiment à dégarnir, bien évidemment, des postes de quartier. On voit clairement, quand on passe la nuit par plusieurs postes de quartier, on voit qu'il y a des voitures qui stationnent la nuit dans le parking. Ça veut dire qu'il y a des policiers en moins qui patrouillent pas. Alors ça, c'est des choses qu'on devrait éviter et ça, c'est très important de le mettre en place.
Le sentiment de sécurité à Montréal est franchement entamé. Autrefois, on était presque insouciant en marchant dans les rues de Montréal. On n'avait pas cette crainte. Là, aujourd'hui, on vit dans une période où il y a de l'hypervigilance. T'sais, on craint la personne qui va marcher à côté de nous. On craint de rencontrer une personne qui est mal intentionnée, une personne qui est intoxiquée, une personne qui souffre de maladies mentales. Ce sentiment, c'est difficile de retrouver. C'est facile de le perdre, le sentiment de sécurité. Très difficile de le retrouver. Au-delà des actions réellement de répression et de prévention, comment redonner le métro de Montréal, les parcs de Montréal, les rues de Montréal aux Montréalais?
C'est une question, ça demande quand même une bonne stratégie, mais le plus important, c'est c'est de redonner la confiance de la population envers la police et policière, surtout notamment auprès des jeunes. Au niveau de la santé mentale, je pense que même les répercussions qu'on a eues après la pandémie, on n'a pas vu toute la répercussion. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui vont venir, puis les personnes ont été affectées, puis on le voit, puis je pense qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Alors, ça demande vraiment de l'aide. Et deuxièmement, par rapport toujours à ce principe qui concerne la santé mentale, nos organismes ont besoin d'aide. Et ça, j'ai vraiment fait un cri de cœur pour vraiment les aider, pour vraiment mieux les financer d'une manière beaucoup plus avec une pérennité. Le dernier point, c'est surtout au niveau du partage vraiment des itinérants. Oui, on a de plus en plus, même plus que ça. Je vous donne un exemple. Moi, je savais qu'il y avait des itinérants au centre-ville, au plateau Mont-Royal. C'est là où je les voyais depuis 2006, 2007, 2008. Mais quand on les voit à Montréal et en masse, et à Rivière-des-Prairies, et à Pointe-Tremble, et on les voit même à Dollard-des-Ormeaux et dans d'autres villes liées, je pense que là, la problématique est devenue beaucoup plus large. Et la façon avec laquelle on les voyait, puis qu'on attendait que l'été arrive pour qu'ils sortent du métro, ce n'est pas la bonne stratégie. Je pense qu'il faut revoir ces éléments-là. Montréal a changé, les problèmes sont vraiment divers. Et bien évidemment, c'est une ville qui est accueillante et on a beaucoup de personnes qui sont bien évidemment ici demandeurs d'asile. Et ça, c'est un autre enjeu que l'administration Plante n'a pas vraiment su affronter à ce niveau-là. Je pense qu'il y en a plusieurs éléments, mais au niveau de la quiétude elle-même, je pense que la population a toujours confiance en son service de police de la ville de Montréal, mais je pense que notre service de police a subi beaucoup de changements. On vient d'avoir un nouveau directeur qui est beaucoup plus stable. Mais vous savez-vous que depuis que je suis arrivé en politique en 2017, on a eu 5 ou 6 chefs de police et on a eu 5 personnes responsables de la sécurité publique à l'administration Plante. Ça, on fait beaucoup de changements. Il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là.
On dirait le ministère de l'Éducation. Ça aussi, c'est des portes tournantes.
Exactement. Ben, on dirait qu'ils sont un peu inspirés de ça, mais ce n'était pas une bonne inspiration.
Monsieur Sarri, il y a un autre phénomène qui m'inquiète beaucoup à Montréal, c'est celui de la criminalité chez les jeunes. Et quand je dis jeune, je ne parle même pas de 16-17 ans, je parle de 12, 13, 14 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune de 14 ans qui venait de faire feu sur des personnes inconnues dans la rue, après avoir volé une voiture, a foncé, a fait un accident de voiture et en est décédé. Des jeunes qui ont participé à l'agression et ils ont poignardé finalement un itinérant à la station Lionel-Groulx. Deux autres jeunes en février qui ont été arrêtés pour vol à main armée dans le métro alors qu'ils volaient des cellulaires et volaient des personnes, des usagers du métro. 54 chefs d'accusation qui ont été déposés contre eux. Qu'est-ce qui arrive avec nos jeunes qui sont encore adolescents?
La première des choses, je vais partager avec vous quand même une étude qu'on avait faite à Montréal-Nord parce que je ne veux pas vraiment stigmatiser le Montréal-Nord, mais on voulait la faire chez nous, mais ça donnait que de un, et je ne veux pas stigmatiser les jeunes non plus, il y a une banalisation de la violence de manière générale auprès des jeunes. Et ça, c'est très important. Puis j'avais écouté M. Dumont dernièrement parler d'une certaine frontière entre le virtuel et le réel. Mmh. Je pense que cette frontière, elle n'est vraiment pas nécessairement aussi nuancée auprès de nos jeunes. Puis ça prend vraiment un certain travail, beaucoup plus, je dirais, c'est pas juste la métropole qui doit travailler là-dessus, mais l'ensemble de la province et même du pays. Ça, c'est de un. De deux, bien évidemment, l'accessibilité aux armes à feu. L'accessibilité aux armes à feu, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément, notamment où ils ont vraiment une certaine accessibilité à des armes à feu qui sont de plus chères d'ailleurs sur le marché noir. Ça, il faut le savoir. Puis de deux, mais ils ont une certaine capacité de les composer avec des composantes qui ne sont pas nécessairement bonnes, puis qui fait en sorte que même l'arme qui est dans leurs mains, qui est dangereuse, devient beaucoup plus dangereuse. Ben, la question maintenant, c'est surtout ces jeux-là quand on veut leur parler. Malheureusement, il y a une certaine rupture de la communication entre nos services de police et ces jeunes-là pour des questions de confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rétablir assez rapidement. Ce pont de communication que nos jeunes, malheureusement...
Il n'y a pas de respect pour l'autorité policière.
Pour l'autorité, pour les systèmes autoritaires et surtout pour l'autorité policière.
Un peu comme en France.
Surtout. Et puis, je ne veux pas qu'on arrive là. Je ne pense pas que la France, c'est quelque chose qu'on doit vraiment s'inspirer, parce que je suis allé vraiment, moi et Mme Black, qui est la mairesse de Montréal-Nord, visiter une région qui ressemble à Montréal-Nord, qui est Évry-Courcouronnes, mais je ne veux pas qu'on arrive là. Je ne veux pas qu'on ait ce modèle policier. Je ne veux pas qu'on ait des caméras partout. Je ne veux pas qu'on ait des policiers partout. Au contraire, il faut travailler auprès des jeunes, mais il faut établir cette question de confiance. Et là, vous ouvrez la porte un peu pour parler d'un élément que moi, ça fait quoi, depuis 2017 que j'en parle, 2018, les caméras portatives, on en est où? Ça fait des années qu'on veut vraiment, que même les jeunes les veulent, les policiers les veulent, puis il y a une seule frontière là-dessus, c'est l'administration Plante. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, mais à chaque fois qu'on voit qu'il y a des actions, mais des petites actions qui pouvaient être faites ici et là, qui peuvent avancer les choses, mais au contraire, l'administration fait le contraire. Et je pense qu'il y a un autre élément que je veux vraiment aussi, je ne veux pas le critiquer, mais on voit clairement que le forum qui a été créé par le SPVM et l'administration Plante n'a pas donné de fruits.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Le forum des jeunes qui a été mis en place, puis qu'on voulait avoir une deuxième édition et une troisième édition chaque année, et qui liait un peu la violence des jeunes au niveau de la problème de santé mentale. Mais je dirais oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas que. Il y a d'autres éléments qu'il faut aller voir.
Mais il y a les parents. Où sont les parents de ces jeunes-là? Quand un enfant à 14 ans, il sort à 4 heures le matin tirer sur du monde avec une arme et voler une voiture... Je sais pas, vous avez des enfants, oui. Est-ce que si votre enfant sort à 3 heures le matin, vous allez le savoir?
Mais Madame Delfadel, moi j'ai parlé avec des parents qui ont perdu leurs enfants,
oui.
Plusieurs. Et le déclic de chez ce jeune-là, ce n'est pas un déclic qui a pris des mois. Hein. Parfois, c'est 48, 72 heures. Puis qu'il est vraiment recruté par des... Je peux vous dire une chose, un autre élément qui est très important. Le recrutement se fait selon un processus de personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que notre système et qui évoluent de manière beaucoup plus rapide que notre système. Alors, ces gens-là qui recrutent nos jeunes dans nos écoles de différentes manières, puis qu'ils ont même des réseaux qui sont fermés, puis il n'y a personne qui en parle auprès des jeunes pour même au moins de rapporter les faits, ça devient plus dangereux. C'est là qu'il faut vraiment travailler. C'est sur ce phénomène où des influenceurs, des mauvais influenceurs, peuvent aller recruter nos jeunes, malheureusement, très rapidement. Mais le dernier jeune qui est mort, si on voit un peu son parcours, c'est un gars qui était brillant à l'école.
Oui, mais il s'est fait mettre à la porte de l'école.
Exact. Puis,
avant d'en arriver rapide. Là, il a Exactement. Dû avoir quelque chose aussi.
Puis, et en même temps, bien évidemment, les parents n'ont pas été bien équipés. Nous, on a demandé d'avoir une ligne pour les parents. Parce que oui. Là, maintenant, il faut travailler auprès des parents. Ils ne sont pas équipés. Moi, je vais faire une tournée au niveau de tous les centres communautaires, je dirais de toute origine, mais notamment maghrébine, pour pouvoir au moins parler aux parents, leur dire « voici les ressources ». Mais parfois, je regarde les ressources qui sont disponibles, puis j'ai demandé aux gens « est-ce que vous avez parlé avec la ligne d'écoute ?» Ils me disent « oui, mais c'est comme un 3-1-1, il n'y a pas de ressources réellement. » Quand on les a appelés, ben, il n'y avait rien.
Ben, il y a deux craintes dans ces communautés-là. La première, c'est évidemment une méfiance envers l'autorité policière, qu'on ne voit pas comme un partenaire, mais comme un ennemi, un adversaire. Et une méfiance envers les directions de la protection de la jeunesse. Toute dénonciation d'une problématique avec un enfant est perçue comme une éventuelle retrait de l'enfant du nid familial qui serait une catastrophe pour cette famille. Donc finalement, ils ne sont ni accompagnés dans la protection de la jeunesse, ni accompagnés dans la prévention et la répression du crime potentiel.
Et ni dans la ligne de côte qu'on nous, on voulait mettre en place au niveau de la ville de Montréal.
Ça commence à être problématique.
Très, très problématique. Et je pense que maintenant, oui, il faut travailler auprès des jeunes, mais il faut travailler également et surtout avec les parents. Et j'ai beaucoup de parents. D'ailleurs, j'ai un groupe à Montréal-Nord qui s'appelle Les Mamans pour la protection des enfants parce qu'il y en a une des mamans qui a perdu son fils. Et parfois, c'est juste une femme monoparentale.
Ben oui.
On parle des parents, mais parfois, c'est pas les parents, c'est
la mère, le père.
Et c'est la mère et le père.
Abdelhak Sari, conseiller de la ville du district Marie-Clara, qui est vice-président de la Commission de la sécurité publique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi. Merci.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmin Abdel-Fadel.
Les tenanciers de bars du Québec sont ouverts à imiter la Californie où une loi va forcer les propriétaires d'établissements licenciés à fournir à leurs clients des tests visant à dépister s'il y a eu de la drogue dans leur consommation. On en parle avec Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bars du Québec. Bonjour, Monsieur Sergakis.
Bon après-midi.
Les tenanciers des bars de Québec sont ouverts?
Oui, on est ouverts pour sécuriser notre clientèle. Puis peut-être ça va ramener un peu plus de clients dans notre établissement parce que ça va être en sécurité.
Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème au Québec quant à finalement la sécurité des boissons qui sont données? Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas où du GHB est mis dans des verres?
Dernièrement, oui. Depuis une couple d'années. Puis peut-être qu'on va suivre les lois de Californie pour nous aider peut-être à sécuriser notre clientèle.
Il y a de plus en plus... On voit évidemment la drogue du viol, ce qu'on appelle le GHB, qui ouais. est dans les boissons. Il y a eu plusieurs campagnes publicitaires disant de faire attention à ces boissons lorsqu'on sort parce que rapidement, quelqu'un de mal intentionné peut y glisser quelque chose. Mais à quel point vous êtes prêt à assumer cette responsabilité-là, M. Gitzel?
Mais on n'est pas soi, là. Si on sécurise pas notre clientèle, mais il n'y aurait plus grand client qui va venir dans nos établissements. Il faut qu'on fasse notre part. C'est sûr que la clientèle ne peut pas être négligent aussi, parce que même si on fait les tests, les clients prennent 5-6 verres. Lorsqu'on va faire 5-6 verres de tests,
il risque de faire son test à l'envers.
Oui, c'est ça. Mais chacune, il faut qu'il fasse sa part. Puis je pense que ça va être positif. Puis on va sécuriser plus nos clientèles pour arriver dans notre établissement.
Quelles seraient les prochaines étapes maintenant que vous avez fait valoir que vous êtes ouvert à ce que les tenanciers de bar puissent distribuer ces tests-là à la clientèle? Est-ce que c'est à la santé publique de fournir ces tests-là ou est-ce que vous allez les acheter?
La police ou la santé publique, ça dépend. Il faut qu'ils se mettent ensemble, eux autres, de sortir une loi qui
Alors, vous n'êtes pas pour que les tenanciers de bar eux-mêmes les achètent et les distribuent gratuitement pour assurer...
Mais on peut, ça dépend combien ça coûte. Là on essaie trop préliminaire encore. Quelle façon que la thèse va être faite? Est-ce que ça va être fait avec une machine? Ça va être fait avec... je ne sais pas quoi. Ça va être fait comme les COVID, je ne sais pas.
Et comment vous... Comment vous voyez ça, vous, une distribution automatique auprès des clients ou à la demande?
À la demande, il faut qu'il y ait à la demande parce que lui qui veut pas, la personne qui veut pas de, qui va vérifier son verre, là, on vérifie pas, là. Si quelqu'un s'inquiète, qu'il y a peut-être un problème avec son verre, là, mais là, qu'est-ce qui se passe présentement? Les clients, quand ils vont aux toilettes, ben, ils donnent le verre au barman, puis au barmaid, là, puis ils mettent son nom dessus. C'est pas évident.
Mettez-vous
là.
Devant le micro de manière à ce qu'on puisse bien vous entendre. Je comprends que vous voulez faire partie de la solution.
Oui.
Mais toujours est-il qu'il y a cette clientèle-là qui rentre avec de la drogue de manière mal intentionnée. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir s'assurer que ces personnes-là ne viennent pas dans ces
lieux? Il n'y a pas de moyen. C'est renforcer les lois. Que les personnes qui vont être poignées pour faire ça, mais ça va en dedans pour un bout, là, parce que quand même, ça peut tuer quelqu'un. Là. C'est très dangereux. La personne ne sait pas ce qu'il fait là, quand il... Quand quelqu'un y met ça dans son verre, là, il peut arriver à porter quoi, la personne-là? Là. C'est réellement... on peut pas voir les clients, on peut pas les fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y a dans leur poste. À part de, on les fouille quand même si y a un couteau, il y a quelque chose. Une arme, mais on peut pas fouiller. Il y a les pilules, puis... ça a beaucoup de responsabilités pour les tenanciers, vous savez. Là.
Mais c'est ça, et vous êtes watché aussi, là, on vous surveille.
Oh my God, vous devrez voir là, la police qui vient dans notre établissement chaque jour, chaque fin de semaine. Il reste 2 heures et questionne tout le monde. Mais c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de violence présentement à Montréal. Là. Jamais été vu la violence qui existe avec...
Dans les bars aussi, vous le voyez?
Ah oui. Il faut qu'on fouille du monde, il faut qu'ils sortent pour y aller fumer dehors, mais là, il faut qu'ils rentrent dedans. Il faut qu'on les fouille encore. Là, puis la police est là. Puis si tu fais pas ton travail correctement, ton permis va être suspendu ou révoqué.
Mais des fois, on peut voir la police rentrer dans des restaurants ou dans des bars, là, t'sais, alors qu'il ne semble pas y avoir de problème. Là, ils rentrent faire des vérifications.
Oui, on est...
Ça, c'est particulier. Parce
oui,
que...
mais chaque fois que j'ai rencontré les patrons de la police, c'est nécessaire. Beaucoup de violence, beaucoup d'armes, beaucoup de fusées, beaucoup de choses. Les autres, ils ont besoin. Ils utilisent les établissements pour obtenir les informations sur chaque individu. Puis ils gardent ça à banque, puis s'il arrive quelque chose de grave, ben là, ils prennent les informations. C'est sûr que ça dérange beaucoup notre clientèle aussi, là, mais...
Il faut ce qu'il faut?
Il faut qu'est-ce qu'il faut, hein. C'est ça qu'ils me disent, là. Puis on peut pas se plaindre trop. On dit, ben, vous pouvez rester moins long dans l'établissement parce que les parties finissent après. Là, parce que quand
ben
même,
oui, c'est ça.
Le monde, ils vont pour avoir un party. Puis si la police
pas
reste
pour
là...
Pour avoir la police. Là.
Pour avoir la police. Puis pas 2 polices. Là.
Non, 20, ils rentrent en gang.
20 policiers.
Ça fait peur.
Et tossent le monde. Puis là, tu sais, là, c'est ça.
Avant de vous laisser, M. Sergakis, qu'est-ce que vous pensez de l'administration Plante et travaux?
My God. Par respect, je vais pas me prononcer, mais je suis pas heureux. De beaucoup d'années. C'est pas si vous vous rappelez, c'est moi qui ai battu Jean Doré, en 90, avec les manifestations. J'ai fait 33 manifestations devant l'Hôtel de Ville de Montréal. J'ai été dans la prison. Ils m'ont arrêté pour rien. C'est tout parce que la police était tannée après tant de manifestations. Ils disent, on va ramasser lui. Mais les manifestants sont venus me chercher dans le poste de police sur Ontario. Puis j'ai réussi pour avoir un dossier quand même, parce que, vous savez, quand tu prends trop de place, ben là, on te ramasse. Puis
ben oui.
Je suis content. Puis ça me fait tellement pitié voir Montréal comme ça. C'est réellement...
Ben, j'ai reçu beaucoup de propriétaires de bars, de restaurants qui disent la hausse du prix de stationnement, les travaux, les zones commerciales qui sont en train de fermer les unes après les autres. Les tenanciers de bars et de restaurants, ils ont de la difficulté?
Pas seulement eux autres. Tout le monde à Montréal a des difficultés. Tout le monde est sanale.
Oui.
Puis ça va dans les banlieues. On a fini à Montréal. Il n'y a plus rien à faire ici. Là. Quand tu parles à une personne pour Montréal, mais il ne va rien savoir du Montréal parce que c'est triste.
C'est très triste. Peter Sergakis, président de l'Union des tenanciers de bars du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci, madame. Merci beaucoup.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.